Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Maître Marc Avota, vous êtes vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. C'est une province qui est très touchée, très concernée par la question des réfugiés et même des déplacés internes. Comment vous analysez la situation du réfugié?
Merci, monsieur Alain. Permettez-moi de saluer en passant d'abord Madame Germaine et le professeur Banyaku, avec qui nous sommes ici au studio. En fait, lorsqu'on examine les chiffres qui sont présentés dans les rapports de l'IHCR et qui ne sont pas directs et exhaustifs, on comprend facilement que la RDC, notre pays, c'est l'un de ces États au monde dont la situation des réfugiés est catastrophique. Et cela s'explique du fait que, de manière permanente, nous traversons, et c'est plus particulièrement à l'Est, une instabilité sécuritaire qui, une fois non endigué le plus tôt, aboutirait à ce que nous puissions observer un cercle infernal traduisant un désastre aussi bien humanitaire que social. Quand nous considérons la situation actuelle, il y a lieu de dire malheureusement que tous ces chiffres qui ont été évoqués sont loin de baisser d'ici demain. Cela au regard du contexte des guerres, de la porosité des frontières, comme mes co-débatteurs venaient de les soulever. Et c'est très catastrophique quand on est du côté de l'Est, au Nord Kivu, ma province, au Sud Kivu, en province orientale, au Katanga. On voit effectivement que ce sont des zones agitées par la guerre, et ce sont des zones où, au jour le jour, on continue à enregistrer des nouveaux réfugiés et des déplacés internes. Et ça, nous pensons que ça doit attirer l'attention et à la fois de l'opinion nationale et de l'opinion internationale. Mais il faut dire tout de même que ce rapport qui a été publié le 18 juin mérite d'attirer notre attention, de nous dire de nous arrêter un tout petit peu, de réfléchir sur l'image de l'État congolais face à la situation des réfugiés, afin que nous puissions voir comment relever les défis. Et à notre niveau, au niveau de la société civile, nous pensons qu'il importe de se poser la question à qui profite cette situation. Parce que vous savez, comme l'a dit un auditeur, il est vrai que ce sont des milliers de personnes qui sont entrées dans souffrir, mais il y a d'autres qui voudraient que cette situation perdure et qui en profitent. Et nous devons, à travers des occasions de ce genre, attirer l'attention des uns et des autres pour que l'on puisse arriver à se dire les choses en face et arriver même à nous dire est-ce que nous pouvons voir autrement les choses pour que nous puissions en finir et essayer de rêver un lendemain meilleur.
Alors, Maître Kavota, quand vous dites qu'on devrait s'asseoir, se dire les choses en face, vous faites allusion à quoi? À un débat au niveau de la sous-région, à un débat avec les États voisins? Précisez un peu cet aspect.
Oui, c'est-à-dire, nous avons compris qu'au niveau interne, il y a des problèmes. Au niveau international, il y a des problèmes. Au niveau interne, vous le savez que jusqu'à l'heure actuelle, notre province, le Nord Kivu, fait face à une violence armée du M23 qui est en train d'occasionner à cette heure d'autres milliers de réfugiés qui traversent la frontière, soit du côté de l'Ouganda, soit du côté du Rwanda, et de déplacés internes. Nous devons comprendre qui en profite exactement. Et ces gens-là sont aussi bien dans l'armée que dans la politique. Vous savez que en dehors de nos institutions, à l'extérieur, il y a ceux qui sont en train d'en profiter. Aujourd'hui, Je ne sais pas si vous, vous êtes au courant, mais je vous l'ai dit parce que je reviens de ma province, le Nord Kivu, où il y a des bus qui viennent du Rwanda. Lorsque l'on crée une petite instabilité, l'État rwandais envoie des bus pour récupérer des personnes, comme pour encourager même ceux qui n'ont pas l'intention d'être des réfugiés, de l'être. Et ceux qui ont cherché à rentrer il y a peu au pays, les Rwandais ont déplacé des milliers de déplacés qui sont basés dans les camps de Camira pour les amener plus loin de la frontière, pour les décourager de rentrer au pays. Et quand on voit tout cela, on réalise qu'il y a des gens qui en profitent et qui doivent chercher à perpétuer la situation.
Donc c'est aussi une question éminemment politique.
Tout à fait politique, parce que il y a des gens qui en profitent, et à tous les niveaux, au niveau politique, au pays et à l'extérieur. Et ça, il faut qu'on les dise en face. Lorsque on les dit tout haut, on peut s'arrêter tout petit peu et se dire finalement ça n'est trop. Et au pays, autrement voir les choses.
Deux auditeurs pour vous, Omar Kavota, Sami Makuta de Gutembo Nord Kivu. La situation des déplacés ici à l'est de la RDC est déplorable car les dirigeants de notre pays s'y intéressent moins. Ils ne maîtrisent même pas les statistiques des déplacés. Le beau Kapunda de Goma au Nord Kivu. Je demande si réellement ces réfugiés congolais éparpillés en Afrique fuient tous, toujours la guerre, ou c'est une autre raison qui les pousse à se réfugier, car à mon avis, à 75% au Congo, il y a la stabilité au Omar Kavota.
Non, il faut être à Kinshasa ou à l'ouest pour le dire. Je viens de vous dire tout à l'heure, contrairement à ce que l'auditeur pense, que l'Est est à proie à une violence armée. Les quatre provinces particulièrement de l'Est, et qui constituent une grande partie du pays, est encore à proie à des menaces, et des menaces qui occasionnent chaque jour de déplacer. Donc, on peut se dire effectivement que 75% du pays peut être à paix, mais lorsque nous visitons même les rapports de l'IACR, on réalise que nous sommes parmi ces États du monde qui brillent par la situation catastrophique des réfugiés à côté de déplacés. Et donc, si on ne voit pas que nous sommes dans une situation telle que nous devons avoir honte, alors nous pouvons nous frotter les mains et croire que la situation elle est si heureuse que ça, alors que nous sommes sur la voie de la catastrophe qu'il faut limiter le plus tôt.
Madame Germaine Bationo, vous êtes représentante régionale adjointe du HCR. Quels sont les droits et devoirs d'un réfugié?
C'est tout un ensemble de choses. D'abord que le réfugié, une fois qu'il a obtenu l'asile et reconnu comme tel sur un territoire bien donné, il n'est pas au-dessus des lois du pays. Et donc il a le droit justement de se conformer à la législation du pays qu'il accueille. Ces droits, ce sont les droits de pratiquement tous les êtres humains, c'est-à-dire que le droit de pouvoir circuler, le droit de pouvoir bénéficier.
Ces enfants peuvent-ils aller à l'école? Est-ce qu'ils peuvent entreprendre une activité commerciale dans un pays donné, par exemple?
La particularité du Congo, c'est que la loi d'asile de 2002 donne justement ces droits aux réfugiés, qui a les mêmes droits que le national, excepté les droits civiques, c'est-à-dire les droits politiques, c'est-à-dire qu'il peut pas voter, etc. Mais il a tous les autres droits. Il a le droit d'avoir une de prendre soin de sa famille. Ses enfants ont le droit d'aller à l'école. Ses enfants et lui mais sa famille, ils ont le droit d'avoir accès aux soins de santé. Tous les droits d'un être normal dans un pays, le réfugié aussi en bénéficie, est clairement dit dans la loi d'asile du Congo par rapport aux réfugiés de 2002.
Et comment ça se passe pour les réfugiés congolais qui sont dans les autres pays? Est-ce que les autres pays ont pratiquement ces mêmes conditions-là que la RDC?
Bon, il faut dire aussi, bon, là, c'est la gestion des États. Chaque État a sa souveraineté et par conséquent définit aussi l'accueil au niveau de son pays. Donc, c'est ici les autorités congolaises ont décidé d'accorder ces droits. D'autres pays le font. Maintenant, jusqu'à quel niveau? Bon, ça, c'est à l'appréciation et c'est laissé aux autorités. Vous allez voir, par exemple, que dans certains pays, on demande par exemple que les réfugiés soient assistés à des endroits bien précis et non en dehors de cela. Bon, ça c'est la souveraineté. Tant que les droits humains de ces personnes ne sont pas violés, parce que c'est ça aussi notre responsabilité, de s'assurer que les droits élémentaires et humains du réfugié, parce que c'est ça aussi notre mandat, que ces droits ne sont pas violés et que bon, il peut bénéficier de ses droits et de son bien-être en tant qu'être humain. Donc, avec les autorités, c'est de vérifier effectivement que ces droits-là ne sont pas violés. Une fois que ces droits ne sont pas violés, la législation est là, tout le monde s'y conforme et c'est valable pour tout le monde.
Alors, un autre aspect important, c'est que pour un réfugié, le retour est volontaire.
Absolument. Le retour
est volontaire. On ne peut pas le brusquer, on ne peut pas le forcer.
Le retour a un caractère volontaire. C'est son droit de choisir de repartir chez lui ou de rester.
Est-il par exemple déjà arrivé que le HCR se trouve devant des situations, par exemple à l'Est, où on signale beaucoup de mouvements de population, que le HCR ne soit pas parvenu à identifier certaines personnes comme réfugiées?
Je comprends pas très bien la question, c'est-à-dire des personnes qui...
Des groupes de personnes qui arrivent, je me rappelle qu'à un moment, on a même évoqué ça dans une émission, des gens qui se faisaient passer pour des réfugiés, mais ni le HCR au Rwanda, ni ici en RDC ne les reconnaissaient. Est-ce que ce genre de situation arrive assez souvent?
Oui, si la personne, parce que comme je vous ai dit, il y a un mécanisme de reconnaissance. D'abord, c'est l'autorité de l'État. Je veux dire, nous ne faisons pas ce que nous voulons au Congo. Il y a des tests, il y a des lois, comme vous avez parlé tout à l'heure de l'accord de siège qui nous lie aux autorités, et c'est sur invitation des autorités que nous sommes là, et qui ont aussi des obligations vis-à-vis des engagements qu'ils ont pris sur le plan international. Alors, donc, par rapport à cela, le premier responsable de l'asile au niveau du Congo, c'est pas le HCS, ce sont les autorités. Donc, par conséquent, aussi bien à l'Est comme partout, il y a la structure technique de l'État qui, avec laquelle nous travaillons, et donc c'est ensemble que des personnes sont reconnues comme réfugiées. Donc si les personnes n'ont pas été reconnues comme réfugiées, elles ne sont pas réfugiées. Mais si elles sont reconnues comme réfugiées, c'est par rapport aux structures qui existent et qui ont été déterminées par les autorités et par nous.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les autorités congolaises qui les prennent en charge ou les HCR essaient de régulariser leur situation?
Il faut aussi dire, on ne peut pas, par exemple, il y a celui qu'on appelle le demandeur d'asile. Le demandeur d'asile, c'est celui qui, disons, qui frappe à la porte et qui dit, voilà, moi, j'ai des raisons de venir et de dire, est-ce que vous pouvez considérer ma situation me permettre, par exemple, de bénéficier de ce statut de réfugié. C'est toute une procédure. Donc, tant qu'il n'est pas réfugié, mais qu'il est dans le processus, c'est celui-là que nous appelons le demandeur d'asile. Et le demandeur d'asile, s'il a des besoins humainement et sur le plan humanitaire, cette personne doit être assistée.
Merci, madame. Professeur Bania Kouloapé, je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales et coordonnateur national adjoint de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Professeur, vous avez évoqué trois aspects qui sont les causes de ce phénomène de réfugiés, mais en guise de solution, il y a des auditeurs qui ont leurs propositions. Mouindo Luc Kambéré de Béni au Nord Kivu, c'est bon de célébrer cette journée, mais il faudrait que la communauté internationale sache que les gens ont besoin de la paix et la sécurité. Sur ce, il est important que cette communauté crée une organisation ou un département qui se chargera de la prévention des conflits, car il n'y a pas des réfugiés sans conflit. Michel Kitoga de Bukavu, Sud Kivu, la situation des déplacés et des réfugiés en RDC ne pourra trouver de solution que lorsque la situation politique sera stabilisée par la restauration de l'autorité de l'État sur tout le pays, le redressement de l'économie par la création des emplois et la fin de l'exploitation illicite des minerais à l'est du pays qui alimente l'insécurité. Enfin, trouver un modus vivendi entre les ethnies, honoré au Sud Kivu, professeur.
Merci beaucoup. Je pense que je vais rebondir sur ce dernier point de l'auditeur. J'ai relevé le point de tension. Et dans les cas de notre pays, c'est depuis 60 qu'on est dans les forums politiques, des dialogues politiques, et c'est là depuis 60, et qu'il s'avère aujourd'hui que c'est les dialogues politiques qui en fait génèrent des conflits, puisqu'il n'a comme objectif le bien-être de la population, mais c'est plutôt le positionnement politique, vous m'excuserez le terme entre guillemets, le positionnement politique et la faible, même l'indifférence vis-à-vis de la représentation. Donc on va dans les dialogues politiques pour se positionner. C'est comme ça qu'en rebondissant sur la dernière intervention, la stabilité des institutions, mais surtout il faut qu'il y ait un dialogue social. Je pense qu'on n'en fait pas suffisamment. Et sur ce point, je pense que les amis de la société civile ont une grande responsabilité, c'est-à-dire ne pas se voir vis-à-vis de l'État, mais se voir vis-à-vis de la société, puisqu'il y a quand même un petit déficit de la représentation politique pour résoudre les questions de la société. Donc, si la société civile tombe dans les pièges où les partis politiques étaient tombés avant, c'est-à-dire chercher à faire une représentation, une auto-représentation indépendamment des intérêts ou de la défense des intérêts de la population, on est des travers. Donc, une des solutions actuelles, que ce soit sur le problème communautaire, que ce soit d'autres problèmes, par exemple de l'exploitation illégale, puisque quand vous dites à quelqu'un, il ne faut pas exploiter, il faut lui donner une solution pour qu'il trouve son revenu en dehors de cette exploitation illégale. Donc il y a ce dialogue social qui doit être entrepris pour qu'on puisse arriver à des solutions.
Alors là, professeur, c'est en interne, mais au niveau de la sous-région, Omar Kavota a insisté sur l'approche politique, le dialogue également au niveau de la sous-région.
Oui, mais vous savez, le grand problème aussi, je m'excuse pour vous mettre, Omar, on sous-estime, on prend l'aspect du dialogue social comme un sous-aspect. Mais c'est l'aspect dominant. Normalement, la société civile organisée et la société tout simplement organisée, c'est cette société qui commande le politique. Or, ici, on a inversé les choses, c'est comme si c'est le politique qui commande la société indépendamment de sa volonté, indépendamment de sa représentation. Donc, même au niveau régional, particulièrement dans la conférence des Grands Lacs, on a initié, il y a des initiatives, de nombreuses initiatives de la société civile où ils se retrouvent dans un premier temps, par exemple pour la conférence, ils étaient observateurs, mais de plus en plus ils ont obtenu un statut, plus qu'un peu observateur, un statut de participant, où ils peuvent donner leurs propositions et parfois même leurs recommandations. Il en est de même pour la jeunesse et pour les femmes. Et je pense que c'est ça qui, tout au long de ce processus, pour arriver au pacte, ce sont ces dynamiques sociales qui ont été plus déterminantes que le petite querelle politique de points et de virgules sur qu'est-ce que vous attendez par agression, qu'est-ce que vous attendez, qui nous ont fait perdre 2 ans, 3 ans. Mais la jeunesse a dit, nous avons droit à l'éducation. Au niveau de la région, une intégration plus forte et des compétitions entre les jeunes pour qu'on soit plus qualitatif. Au niveau de la région, au niveau international. Voilà, ce sont ces préoccupations qui ont fait que petit à petit, le dialogue n'est plus seulement dialogue entre politiques, mais dialogue social qui doit, à mon sens, être pris en compte sérieusement par la société civile pour que la paix sociale soit découle du dialogue social.
Maître Omar Kavota, je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Je rappelle en même temps qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. En guise de solution, Maître Kavota, le professeur Banyaku insiste sur le dialogue social. Pourrait-on un jour finalement mettre fin à ce phénomène réfugié?
Oui, comme nous estimons que la question des réfugiés est éminemment politique, il nécessite effectivement des solutions politiques par rapport à cette question. Et nous l'avons relevé. Nos autorités du gouvernement central ont une part des responsabilités non négligeables par le fait de leur laxisme, par le fait de leur inertie, par la consacration de la porosité des frontières. Effectivement, tous ces éléments font en sorte que la situation de réfugiés reste de plus en plus préoccupante. Je suis d'avis avec le professeur que il importe qu'on aborde l'approche du dialogue social. Mais j'ai dit aussi que ce n'est pas la seule approche qu'il faut, qu'il importe d'exploiter. Il y a aussi d'autres approches et je voudrais parler de certains lobbies au niveau des organisations de la sous-région, au niveau des organisations de la région comme l'OIA et au niveau international, même au niveau du Conseil de sécurité, parce que ce problème de plus en plus n'est plus notre seul. Il commence à emmerder les continents, il commence à emmerder la sous-région, il commence à emmerder le monde entier. Et ça, nous pensons que les plaidoyers devaient être orientés à ce niveau. Et au niveau de ces plaidoyers, c'est l'erreur d'ailleurs que les politiques congolais ont toujours commis. On oublie d'associer la société civile. Vous savez que lors de la conférence à Mani de Goma, où on a traité de la question des réfugiés, aujourd'hui même si certains groupes armés commencent à exploiter abusivement ces accords, il a été dit qu'il importait qu'on puisse identifier les réfugiés à l'extérieur du pays. Et cette identification devait associer la société civile. Mais si ce travail est déjà fait, pensez-vous qu'on a associé la société civile à tout ce qu'il y a eu? Voilà pourquoi nous pensons que la société civile est aussi écartée par les politiques, là où elle devait apporter son expertise et son savoir-faire pour connaître ensemble de nous approprier les problèmes et trouver solution.
Madame Germaine Bationneau, en guise de conclusion, qu'est-ce que les auditeurs et internautes qui vous suivent peuvent retenir en un mot?
Je dirais simplement ceci, c'est parce que aujourd'hui nous célébrons ce que nous appelons la journée mondiale du réfugié et que le réfugié n'a jamais choisi d'être à l'exil. Le réfugié n'a jamais choisi de vivre dans des conditions assez délicates et précaires comme on le voit un peu partout. Et donc le message c'est les raisons de ces déplacements de personnes, nous les connaissons, mais le réfugié n'est pas le problème. Le réfugié a besoin simplement qu'on fasse attention et que la communauté internationale et tous ceux de bonne volonté se réunissent de façon à ce que le retour qui est la solution durable soit possible et que l'intégration soit possible dans la mesure où les autorités acceptent justement qu'il y ait certaines personnes d'entre elles qui peuvent rester si c'est leur choix de rester dans le pays. Voilà.
Professeur Bagnacou, en guise de conclusion, un mot.
Je reviens au fait que je soutiens fondamentalement que même si une tension est sécuritaire et même si c'est une tension qui est liée à l'économie, mais le fond du problème c'est que les gens doivent se parler et trouver sur des bases réelles des solutions.
Maître Kavota, juste un mot pour terminer.
Des efforts doivent être consentis pour limiter la catastrophe au niveau des groupes armés, combattre la porosité des frontières et alerter la communauté internationale pour que ensemble des efforts puissent nous amener à stabiliser la région et notre pays et même les niveaux sous-régionaux.
Merci maître, merci madame, merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à demain.